Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Célier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Tiens, ce soir, RTL Soir va s'intéresser au film qui défie les lois du box-office. Vous l'avez peut-être vu, Les Baudins en Thaïlande, 1 300 000 entrées, carton plein, record en province. En revanche, leur humour paysan est boudé à Paris. Alors on va essayer de comprendre ce phénomène géographique assez unique avec le duo de comédiens. Les Baudins seront nos invités de 18h15. Les autres titres de l'actualité maintenant, ils sont à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ouf pour les vacanciers. Finalement, ce sera trafic quasi normal à la SNCF sur l'axe sud-est ce week-end. Préavis de grève levé pour demain. En revanche, ce sera perturbé. L'ouverture de la vaccination aux 5-11 ans sans obligation, peut-être dans les prochains jours. Sur RTL, Emmanuel Macron répond aux questions de 6 enfants sur les vaccins, sur les masques, sur les fêtes. Émission spéciale Ils refont la France à retrouver demain à 19h15. Premier extrait ce soir. Et puis Bruce Springsteen, plus fort que Bob Dylan, le boss aurait cédé son catalogue à Sony pour un demi-milliard de dollars. Les courses dans le Quintet Plus à Deauville, il fallait jouer le 3, le 9, le 14, le 16 et le 4.
Dans un quart d'heure, enquête de la brigade RTL sur les difficultés financières de l'église française. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de la visite de Marine Le Pen à Mayotte. Pourquoi veut-elle faire de ce département d'outre-mer un symbole? 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, dernière ligne droite pour les courses de Noël. On va décrypter nos comportement de consommateurs frénétiques dans cette période si particulière. Au menu également, du picard à l'école, des pâtisseries coquines et des abdos en béton armé.
19h15, on va refaire le monde et notamment Mayotte autour d'Éric Brunet et puis des points réguliers tout au long de l'émission avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Dites-nous la tendance.
Grisaille au nord, soleil au sud, mais un peu plus d'éclaircies peut-être en journée au nord.
On détaille ça dans quelques minutes, à tout de suite.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
Avec une bonne et une moins bonne nouvelle ce soir. La grève est levée pour ce week-end à la SNCF, mais pour demain, eh bien, ça ne changera rien en prévision de circulation.
Oui, sur l'axe sud-est, toujours un TGV sur deux annoncé. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
La direction et les syndicats ne sont parvenus que trop tardivement à un accord.
Oui, la CGT et Sudrail ont retiré leur préavis de grève en début d'après-midi. Le plan de circulation pour demain était déjà bouclé depuis hier, alors on ne pouvait plus le modifier. En revanche, samedi et dimanche, la circulation des TGV sud-est sera quasi normale. Nous avons arraché des avancées, dit Béranger Cernon de la CGT Cheminots.
Il y a des choses qui ont été obtenues et qui ont permis la levée de ces préavis. Si jamais la direction de la SNCF n'avait pas voulu prendre ses responsabilités, n'avait pas voulu négocier, nous aurions été jusqu'au conflit. On a réussi à avoir des promesses de recrutement. Aujourd'hui, on a un très grand nombre de trains où malheureusement le contrôleur se retrouve tout seul à bord, alors que à minima on estime qu'il faut qu'il soit deux. Donc voilà, quelques exemples concrets de ce qu'on a pu obtenir en termes d'amélioration des conditions de travail.
Et ça s'ajoute aux primes déjà obtenues hier, 600 euros pour les conducteurs et 300 euros pour les contrôleurs des TGV Sud-Est. Les voyageurs vont donc pouvoir circuler pendant les fêtes, mais ensuite la CGT et Sudrail réclament une réouverture dans les plus brefs délais des négociations salariales avec la direction nationale de la SNCF.
Voilà, précision signée Marie Guerrier pour RTL. Départ serein donc pour ce week-end. Ces vacances et cette période de fêtes qui vont débuter demain, toujours sous le signe du Covid.
Avec son lot d'interrogations, quelles précautions prendre en famille, le masque jusqu'à quand? Ces questions, parmi de nombreux autres, 6 enfants ont pu les poser sur RTL à Emmanuel Macron.
Dans le cadre d'une émission spéciale de Ils refont la France autour d'Amandine Bégaud, ce sera demain à partir de 19h15. 6 enfants, un président et de nombreuses questions donc sur la situation sanitaire, les gestes barrières et la vaccination.
Bonjour monsieur.
Bonjour Inès.
Quand est-ce qu'on pourra enlever les masques dans les écoles?
Écoute, je peux pas te donner une date fixe. En fait, pourquoi on a remis le masque là et on a un peu redurci les choses? Parce que, comme vous l'avez peut-être vu, il y a ce qu'on appelle une nouvelle vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce fameux virus recircule à nouveau beaucoup et en particulier dans les classes. Si on veut pouvoir laisser les écoles ouvertes, il faut qu'on essaie de se protéger tous et qu'on freine. Je pense qu'à la rentrée, il y aura encore le masque. Et après, ça dépend si ce nouveau variant là qui arrive nous oblige à encore faire ça quelques semaines. Sinon, dès que le virus circulera un peu moins vite, on pourra revenir comme on était il y a quelques mois, même quelques semaines, et le réenlever à nouveau.
Pour Noël, est-ce que je peux aller voir mes grands-parents?
Alors oui, mais le mieux, ce serait d'abord que tes grands-parents, ils aient fait leur rappel pour se protéger. protéger.
Oui.
Et après, l'idéal, ce serait qu'avant que tu ailles les voir, tu puisses faire un test pour être sûr que tu n'as pas le virus.
Oui, c'est ça, je vais le faire.
Si toi, tu fais le test et que eux ont le vaccin, c'est bon.
Héloïse ?
Pour Noël, est-ce qu'on va être obligé de se faire vacciner ?
Est-ce que les enfants, alors, c'est ça que tu veux demander, Héloïse ? Est-ce que les enfants vont se faire vacciner, monsieur le Président ?
Non. Alors, d'abord, là, on va attendre ce que nous disent les médecins. On va sans doute ouvrir la vaccination aux 5-11 ans. Je pense que ça va être confirmé, mais tous les détails vont être donnés dans les prochains jours. Je pense, tu vois, la semaine prochaine. Après, ce sera un choix qui sera laissé aux parents, pour le moment.
D'accord.
Pour les 12-18 ans, c'est comme ça. On n'a pas rendu obligatoire formellement, mais c'est plus simple. Et il y a une très large majorité, tu vois, de ceux qui sont un peu plus vieux que vous, qui se sont fait vacciner. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on va ouvrir bientôt la vaccination aux 5-11 ans. Elle sera au choix des parents et on attendra progressivement, on donnera toutes les informations pour avoir le bon recul, mais elle ne sera pas obligatoire, là, ni pour Noël, ni pour la rentrée, ni, je pense, pour les prochaines semaines. Et donc, pour Noël, il n'y aura pas du tout l'obligation de se faire vacciner. Ça, c'est sûr.
Emmanuel Macron interviewé par 6 enfants sur RTL. Il sera aussi question de l'OM, de la liste du président au Père Noël, de la suppression de l'école le mercredi, mais aussi de la présidentielle.
Oui, la suppression de l'école le mercredi, c'était une vraie revendication de ses enfants. Emmanuel Macron dans Ils refont la France, spécial Noël avec des enfants. C'est donc demain soir à partir de 19h15 à écouter sur RTL.
Le chef de l'État qui réunira demain après-midi un nouveau conseil de défense sanitaire. Aujourd'hui déjà cette décision, hein, interdiction d'entrée sur le sol français pour les Britanniques à partir de samedi.
Le Royaume-Uni en pleine vague Omicron. Nouveau record de contamination battue aujourd'hui, plus de 88 000 cas en seulement 24 heures. C'est tout simplement du jamais vu depuis le début de la pandémie. On sera à Londres dans le journal de 19h.
La France, elle, se prépare à une augmentation des hospitalisations pendant les fêtes et certains hôpitaux commencent déjà à prendre les devants à Agathe Landé.
Oui, aux hospices civils de Lyon, par exemple, 30 à 50% des opérations chirurgicales non urgentes sont déjà déprogrammées aujourd'hui. La vague frappe fortement l'hôpital en ce moment et les soignants manquent. 250 postes sont vacants aujourd'hui dans les hôpitaux lyonnais. Résultat, 4 à 5% des lits y sont fermés. Alors pour trouver des bras, comme à la PHP à Paris, ils proposent aux soignants qui le souhaitent de racheter leur congé de fin d'année s'ils acceptent de les annuler. Puisque l'on sait que les admissions de patients Covid vont se poursuivre au moins jusqu'au mois de janvier. En plus, cerise sur le gâteau, la grippe est désormais là en Ile-de-France mais aussi en Occitanie qui d'ailleurs passe ce soir en phase épidémique. L'ARS Occitanie active donc le niveau 2 du plan blanc pour faire de la place. Ils vont déprogrammer le plus possible et appeler en renfort des soignants retraités ou étudiants.
Alors il faut dire qu'au-delà de la reprise épidémique, ces tensions, et on l'entend beaucoup ces derniers jours, elles sont liées aussi et surtout à un exode des soignants. Et sur cet exode, on a ce soir des chiffres qui sont très clairs, Agathe.
Oui, le ministère de la Santé a publié une étude cet après-midi qui confirme que l'absentéisme à l'hôpital est plus important en ce moment que d'habitude. 10% des infirmiers absents, jusqu'à 15% pour les aides-soignants. Fatigués, beaucoup sont en arrêt maladie ou tout simplement partis. Rien qu'au mois d'octobre, 314 médecins et 511 aides-soignants ont démissionné. Et chez les infirmiers, 2400 sont en congé longue durée ou ont démissionné.
Plus de 300 départs en un mois seulement, précision signée Agathe Landé. Merci.
Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec la garde à vue, toujours en cours, de la nouvelle campagne de Cédric Jubilard. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, 18h10, vous écoutez RTL. Elle peut encore être entendue une douzaine d'heures. La nouvelle campagne de Cédric Jubilard est toujours en garde à vue ce soir.
Entendue pour recel de cadavres depuis hier matin dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Il y a un an, garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac, dans le Tarn. Vous êtes sur place pour RTL, Patrick Tégéraud.
Oui, depuis ce matin, 9h, l'avocate de Séverine est à ses côtés. Une très longue journée d'audition. La jeune femme est plus que jamais sous la pression des questions des enquêteurs. Ils sont persuadés que Cédric Jubilard lui a confié un détail, une information qui permettrait de retrouver le corps de Delphine et ainsi de prouver la culpabilité de son mari. Mais si cela dure autant, c'est que certainement les interrogatoires n'ont pas donné les résultats escomptés. Déjà hier, 6 personnes ont été entendues sans être placées en garde à vue. Des codétenus de Cédric et des proches de Séverine. Précisons que son fils n'a pas fait partie de ces auditions. Après quelques heures avec les gendarmes, chacun est rentré chez soi ou en cellule pour les détenus. Alors pour Séverine, les gendarmes veulent prendre leur temps, tout leur temps, et peut-être même aller jusqu'au bout de la garde à vue demain matin à 7h.
Patrick Tégéraud à Gaillac pour RTL. Un pas peut-être vers la révision. En tout cas, la justice a ordonné aujourd'hui de nouvelles investigations dans l'affaire Omar Radat, du nom de ce jardinier condamné puis partiellement gracié pour le meurtre d'une riche veuve, Guylaine Marshall, en 1991.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Mieux que l'euro-million pour Bruce Springsteen. Selon plusieurs médias américains, le boss aurait vendu ses droits musicaux à Sony. Karine Hutton, vous êtes à New York pour RTL. Une session record, hein, selon les chiffres avancés ce soir.
Oui, en cédant pour 500 millions de dollars ses succès légendaires, ses disques de platine, Born in the USA et River notamment, l'ensemble de son catalogue et ses droits d'auteur-compositeur, Bruce Springsteen établit un record. Par comparaison, l'an dernier, Bob Dylan avait vendu son catalogue complet pour 300 millions de dollars à Universal Music. Rumeurs et spéculations allaient bon train depuis quelques semaines et il n'est pas étonnant que Springsteen ait choisi Sony. La rockstar a été fidèle pendant les 50 ans de sa carrière à Columbia Records, une filiale de Sony Music, pour gérer ses droits. En tout cas, cela confirme l'appétit grandissant des labels et des sociétés de capital investissement pour les rachats de ses offres complètes. Ils sont effectivement tous attirés par l'essor du streaming et la promesse de revenus toujours en hausse pour la musique dans les années à venir.
Karine Hutton à New York pour RTL, le boss plus fort que Dylan, chacun jugera.
Oui, chacun jugera. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça,
Marion ? Si, ça me va.
Ça vous va, ça vous va. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Peggy, un avis, Springsteen, Dylan ?
Oh, je vais garder le boss.
Vous gardez le boss, vous aussi ? Ouais. Moi, je suis plus Dylan. Bon, chacun son truc.
Voilà.
Allez, le temps, Peggy, dites-nous tout.
Eh bien, écoutez, on va poursuivre avec des conditions anticycloniques. Ça veut dire un temps calme, un temps sec, mais avec toujours beaucoup de grisaille au nord et en allant vers le Lyonnais le matin. Un peu plus d'éclaircies quand même, déjà dès demain matin, vers la Bretagne. Grisaille matinale également sur les plaines du sud-ouest et le Languedoc, mais dans l'après-midi, du beau temps sur toute la moitié sud comme les jours précédents. Une grisaille tenace entre la Normandie, l'Île-de-France et l'Hauts-de-France, mais un ciel un petit peu plus variable avec l'espoir de quelques éclaircies entre la Bretagne, le Val-de-Loire. En allant vers le Grand Est, ça fera du bien et tout ça avec un peu de vent. Les températures, elles seront stationnaires de 3 à 7 degrés le matin sur le Nord-Ouest, de moins 1 à 3 ailleurs, les maximales, 3 à Ambérieu, 8 à Nancy, 10 à Paris, Reims, Caen et Limoges, 14 à Tarbes et 16 à Toulon.
Merci Peggy. Allez, 18h14 minutes. Il y a un petit problème de jingle. Voilà, ça arrive, c'est la magie de la radio. On attendait tous le jingle Brigade RTL parce que c'est l'heure de la Brigade RTL qui va s'intéresser maintenant aux finances de l'Église française. Est-ce qu'elle va se retrouver sans le sou ? C'est la question ce soir. RTL a enquêté. C'est vrai qu'il y a effectivement une inquiétude. On va poser trois questions donc à notre Brigade RTL. Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Ces difficultés, elles ne sont pas nouvelles, non ?
Ouais, en 12 ans, le nombre de donateurs au denier du culte a diminué de 35%. C'est une baisse continue, moins 3% encore l'année dernière. L'Église catholique perd surtout ses donateurs les plus modestes. L'ensemble des dons, c'est-à-dire le denier, plus l'argent collecté à la quête ou versé lors des mariages, baptêmes, funérailles, bien tout ça, ça ne couvre plus les charges. 95% des diocèses doivent puiser chaque année dans leurs réserves. Elles sont constituées de legs, d'éventuels produits financiers et puis des ventes de biens. Les diocèses les plus fragiles ont 6 mois de réserve devant eux, quand les plus aisés peuvent voir venir sur plusieurs années. Alors, une dizaine de diocèses doivent absolument revoir la gestion des charges, par exemple Troyes et Avignon, comme déjà l'a fait par exemple Montauban. Pour faire des économies, l'Église supprime des postes, moins 17% de salariés laïcs depuis 2014.
Donc l'Église supprime des postes, ça c'est quand même une sacrée info. Cette fin d'année 2021, elle est assez particulière, non Marie ?
Oui, avec la publication récente du rapport sur les violences sexuelles dans l'Église, les évêques ne constatent pas pour l'instant d'effets négatifs sur la générosité des fidèles. À voir en décembre, parce que c'est un mois particulièrement important. Traditionnellement, c'est en décembre que 25 à 30% du denier du culte est collecté. L'année dernière, un rebond du denier avait permis d'amortir en partie le choc financier de la pandémie. Parce qu'il y a quand même eu 45 millions d'euros de ressources manquant en 2020 à cause des églises
fermées, des jauges réduites. Cette année, on n'a d'ailleurs pas encore retrouvé le niveau d'avant-crise sanitaire, notamment pour l'argent de la quête. Et puis enfin, il y a le fonds dédié aux victimes des violences sexuelles. Les diocèses se sont engagés à y verser 20 millions d'euros début 2028. Bah, là aussi, il va falloir piocher dans les réserves. Des diocèses vont s'appauvrir. Le pape François avait dit, juste après son élection, comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres.
On y vient, les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Marie Guerrier. Une petite pause et puis sur RTL, on va ensuite s'intéresser au film qui défie les lois du box-office. Les Bodins en Thaïlande dépassent le million d'entrées au cinéma. Plébiscite, record, salle comble en province. Indifférence à Paris, phénomène quand même assez inédit. Le duo de comédiens nous donne la recette du succès juste après ça sur RTL. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h19, les invités même de RTL Soir. Bonne fin de journée, on vous accompagne et nous intéressons ce soir au triomphe des Bodins. 1 300 000 entrées dans toute la France pour leur film Les Bodins en Thaïlande. Carton dans tous les cinémas français, sauf à Paris. Alors on va essayer de comprendre ce phénomène qui défie un peu les lois du box-office. Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet sont nos invités. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Julien.
Vincent, vous êtes Maria Bodin, la vieille fermière édentée. Grand cœur, grande gueule. Jean-Christian, vous êtes Christian Bodin, ouais. Son fils, le quinca un peu gauche, hein, on peut le dire.
Ouais. T'es gentil encore. Ouais.
Dans votre dernière comédie, Maria emmène son fiston complètement dépressif se changer les idées en Thaïlande. Choc des cultures, humour, course-poursuite.
Bon, écoutez, Madame Bodin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser.
Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan?
Alors, le public adore, et je crois d'ailleurs que vous êtes un peu les premiers surpris par ces chiffres qui sont absolument incroyables.
Bah, c'est vrai qu'on est agréablement surpris, parce que faire ces chiffres-là en ce moment au cinéma, c'est pas gagné. Il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents. Il y a beaucoup de films en attente, donc on a la chance de sortir du lot, on est heureux. Hein. Et puis surtout heureux de voir les salles pleines, et puis que notre film rassemble... De beaucoup de générations, ça c'est une de nos grandes fiertés qu'il y a beaucoup. Les gens viennent en famille.
Ouais, on est surpris, mais on l'espérait quand on fait quelque chose. Bien naturellement, on espère toujours que ça marche. Mais c'est vrai que nous, on vient plutôt du spectacle, donc on a une grosse base de public et on se disait si tous ces gens-là viennent au cinéma.
Oui, public fidèle parce que vous remplissez les zéniths depuis des années. Il y a une communauté Bodins aujourd'hui.
Ouais. Alors on a toujours espoir que ces gens-là viennent au cinéma, mais c'est vrai que ce sont deux choses très différentes et même nous, l'exercice est différent. Donc le public a répondu présent et on en est ravis.
Comment vous expliquez cette fracture géographique? Je le disais un peu plus tôt, en province, les salles de cinéma affichent complet, c'est la folie. Alors qu'à Paris, j'ai regardé tout à l'heure, il y a une seule salle qui diffuse le film.
Mais même nous, on a du mal à l'expliquer parce que, en fait, on a fait une énorme tournée d'avant-première. On a fait plus de 150 avant-premières partout en France, qui étaient blindées partout avec un accueil mais incroyable. Donc ça a vraiment bien lancé le film. Et puis après, je pense que, comme disait Vincent tout à l'heure, il y a tellement de films en attente en ce moment que les salles parisiennes sont assez frileuses pour prendre le moindre risque. Donc on analyse ça comme ça, on n'a pas vraiment d'explication parce que quand on joue en spectacle, on joue au Zénith de Paris encore en février, ça sera plein. Quand on joue à Paris, c'est toujours plein.
Il y a un peu de parisianisme là dans cette histoire.
Peut-être, mais en même temps, ce qui est curieux, c'est qu'on sait tous très bien. Vous êtes bien placé pour le savoir, Julien. On vient tous de la campagne, ceux qui habitent à Paris. Et donc, je pense qu'à Paris, il y a beaucoup plus de provinciaux que de Parisiens véritablement. Donc, il y a sûrement plein de gens qui voudraient voir les Bodins. Peut-être qu'ils vont les voir en province. Ils en profitent
pour faire ça. Qu'il y a du monde en province, c'est parce que tous les Parisiens viennent voir.
C'est ça. Vous nous disiez tout à l'heure, il y a une communauté, on a un public qui est très fidèle, qui vient nous voir, qui nous suit sur les Zéniths. Il y a un portrait robot de vos fans aujourd'hui?
Ben, de moins en moins, j'allais dire. Vraiment, il y a, comme le disait Vincent tout à l'heure, on a les enfants, les parents, les grands-parents. C'est ce qui nous ravit le plus, nous, c'est de réunir dans une même salle, que ce soit au cinéma ou en théâtre, la famille entière. Et c'est vrai que c'est ça la définition du spectacle populaire. Il y a le cirque où on va quand on va au cirque, on y va en famille et puis chacun trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Puis les bonins, c'est un peu ça. Donc
vous êtes un peu une espèce en voie de disparition, non?
Ben,
le
ouais.
vrai grand succès populaire comme ça qui rassemble toutes les générations.
Ouais, et puis
c'est devenu assez rare finalement. On a soit des films très élitistes, soit très populaires.
Bah, c'est-à-dire que ça. Qui a fait ça aussi, c'est notre longévité, parce que nous, ouais. ça fait 30 ans que le duo existe. On est resté fidèle à notre public. On essaie de, on prêche des choses sur scène. On essaie de pas être le contraire dans nos vies, parce que c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Faut porter des valeurs, parce que nos personnages en portent. Donc
ça veut dire que vous vivez tous les deux toujours en Indre-et-Loire. Là, vous avez commencé
en campagne. Jean-Christian ouais, ouais. dans l'Indre, dans le Berry, et moi en campagne en Touraine.
Et vous y êtes bien.
On est très bien.
Ouais.
Là, ouais.
Et votre humour. Paysan, comme le surnomment certains critiques, je ne sais pas si vous trouvez ça péjoratif ou pas
ben,
d'ailleurs.
Non, mais c'est pas franchement la vérité, parce que c'est justement, on fait beaucoup pour que nos spectacles ne sont pas du tout régionalistes, pas du tout. Ouais. En fait, nos personnages sont des ruraux, ça certes, mais voilà, quand on les emmène à Bangkok, on ne peut pas dire que Bangkok, ça soit la campagne. Quoi. Donc, non, c'est une comédie avec des deux personnages qui sont récurrents, qui sont des ruraux et qui ont un bon sens terrien.
Et avec une panoplie de bons mots. Franchement, il y a des phrases, on se demande, mais comment vous les inventez? J'en lis une. Le jour où les cons vont flotter, tu n'auras pas besoin de brassard. Mais ça sort de quel cerveau, là. Qui est responsable?
En général, c'est plutôt moi le responsable de ces expressions. Mais nous, on a été élevés au dialogue de Audiard avec Jean-Christian. On a tous les deux plus de 50 ans et on a beaucoup regardé ces films-là. Et les gens, quelquefois, disent qu'on a des dialogues audiaresques, qu'on ne peut pas nous faire plus plaisir.
C'est un joli compliment.
Ouais.
Dans ce film, vous convoquez en Thaïlande une multitude de références. Le coup de rosé bien frais, la purée mousseline, Benjamin Pavard.
Ouais.
Vous assumez les clichés, à la fois franchouillard, mais aussi les clichés sur l'Asie, d'ailleurs, dans ce film. Il y a une envie d'en rire, de les détourner un petit peu.
Ben, non, mais c'est nos personnages qui dictent ça, en fait. Nos personnages sont vraiment des petites gens, des gens du peuple, et pour nous, ce sont deux entités, maintenant, qu'on connaît par cœur, et puis quand ils sont dans une situation, on se dit, voilà, comment Maria Bedin dirait ça, puis hop, ça j'allais dire, ça sort presque tout seul, quoi.
Comment vous travaillez, justement, sur les dialogues? C'est,
Vincent,
vous disiez, ça sort de ma tête souvent, ben, et ensuite vous échangez.
Au départ, on s'intéresse interdit d'écrire une seule ligne de dialogue tant qu'on n'a pas l'histoire, le scénario ouais. bien ficelé. Et puis après, à partir du moment où on a toute l'histoire, on commence à se dire, comme vient de dire Jean-Christian, comment nos personnages diraient ça. Et puis après, Jean-Christian est plutôt spécialiste de la scénarisation et moi, je m'amuse à faire des... À
voilà,
trouver
mais on
des
travaille bons toujours ensemble, en fait, de concert tout le temps.
C'est un vieux couple, en fait.
Bah, oui. C'est un peu ça, ouais.
C'est ça, un vieux couple mère-fils.
Ouais.
Et la suite, c'est quoi? Maintenant que les Bodins sont revenus de vacances, reposés de Thaïlande, est-ce qu'il y a une suite au cinéma, en gestation?
Oui, voilà, on a plein d'idées pour le cinéma. Nous, on est plus des comédiens de théâtre, donc on a aussi des idées. Alors, on a une énorme tournée qui nous attend. On joue demain encore aux Zénith de Nantes. Ouais. Cette tournée nous emmène jusqu'en avril 2023. Ouais. On fait tous les Zéniths, 133 dates de Zénith. On vient de tourner, mettre en boîte une belle émission on espère qu'elle sera belle pour M6. C'est encore un exercice qui est encore inconnu pour nous jusqu'à hier, en fait, parce qu'on nous a en boîte hier. Donc voilà, on adore décliner nos personnages. C'est pour ça aussi qu'on se lasse pas. Donc, de les emmener au cinéma, ouais. au théâtre, à la télé, sur le net. Mais un film, oui, on a très envie de faire un autre film, naturellement. Alors, qu'il se passera? On a adoré dépayser nos personnages, ouais. les emmener ailleurs, parce que de ce choc culturel
ouais.
naît forcément le décalage, donc l'humour et puis plein de choses. Alors peut-être qu'on les emmènera ailleurs, peut-être pas. On a plein de pistes différentes. On n'aura pas assez d'une vie pour faire vivre tout ce qu'on a envie de faire vivre à nos personnages. Donc,
et bien continuez, voilà. En tout cas. On vous retrouve quand sur scène? Donc demain à Nantes, c'est ouais. ça pendant quelques jours, je crois.
Ouais, jusqu'à
vendredi,
dimanche.
Samedi, dimanche.
Et ensuite en
après,
janvier.
On fait un petit break et ensuite en mi-janvier, on reprend à Saint-Étienne, Lyon, Clermont. Et puis Paris vers la mi-février, je crois que c'est 11, 12, 13 ou 10, 11, 12 au Zénith.
On regarde les dates sur votre site internet,
voilà.
c'est ça, lesbodins.fr.
Voilà, ouais.
FR,
ouais.
C'est ça, bah oui, FR, français, évidemment. Et donc on vous retrouve à la fois sur scène et toujours au cinéma, parce que les Baudins en Thaïlande sont toujours à l'affiche. Alors à Paris, on a compris que c'était un peu compliqué. Ouais. Profitez des vacances, les Parisiens, pour aller voir le film en salle en province, ce film qui défie un peu les lois et la logique du box-office. Merci en tout cas,
Jean-Christian Frayssinet,
les Baudins, d'avoir été ce soir nos invités sur RTL.
Merci beaucoup.
Dans un instant, RTL Soir va se poursuivre avec les dessous de l'actu, les dessous de la visite symbolique. Vous allez l'entendre de Marine Le Pen à Mayotte, en plein océan Indien. Et puis laissez-vous tenter dernière avec les mystérieux cités d'or pour vos enfants.
RTL Soir, Julien Cellier. RTL Soir avec Julien Cellier.
Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, on va refaire un petit point sur les titres de l'actualité. C'est à vous Marion Calais.
88 000 cas en 24 heures. Nouveau record de contamination au Royaume-Uni. Face à ce que Paris qualifie de raz-de-marée lié à Omicron, la France interdit son territoire dès samedi aux Britanniques. 27 ans après la condamnation d'Omar Radat, de nouvelles investigations ordonnées aujourd'hui par la justice. Il s'agira d'examiner une expertise ADN présentée par la défense de l'ancien jardinier. Et puis le préavis de grève levé à la SNCF pour ce week-end. Trafic quasi normal sur l'axe sud-est. En revanche, ça restera perturbé demain. Un TGV sur deux, toujours prévu.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps pour demain, Peggy.
Encore beaucoup de grisailles, Julien, demain matin, surtout au nord, mais elle résistera surtout entre la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France en journée. Il devrait normalement y avoir un petit peu plus d'éclaircies entre la Bretagne, le centre, en allant vers le Grand Est, et puis toujours du beau temps dans le sud après dissipation des grisailles matinales dans le sud-ouest. Peu de changements côté température. 3 à Ambérieux jusqu'à 16 à Nice. 8 à Strasbourg, 10 à Paris, 12 à Toulouse et Nîmes.
Merci Peggy.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous de la visite de Marine Le Pen à Mayotte. Pourquoi la candidate RN est si populaire dans ce département d'outre-mer au milieu de l'océan Indien? Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Vous suivez cette visite pour RTL. Alors ce n'est pas son premier déplacement sur place. Son parti a obtenu 46% des voix aux européennes 2019. Et Marine Le Pen veut en faire un symbole parce que le territoire subit une pression migratoire très forte.
Oui, quand vous allez sur la pointe nord-ouest de l'île, vous regardez la mer, à 70 km, vous avez les Comores, et c'est de là que viennent la plupart des migrants clandestins sur les fameux bateaux de pêche qu'on appelle les Kwasa Kwasa, et dont un certain nombre coulent pendant la traversée. Dernier exemple, samedi dernier, où 5 corps de migrants ont été repêchés. Alors le résultat, c'est que vous avez ici une population qui était de 270 000 habitants en 2017, un dernier recensement INSEE, dont la moitié est étrangère, et parmi ceux-là, la moitié est en situation irrégulière. Alors il y a aussi une politique d'expulsion massive, hein, 30 000 personnes par an, mais des migrants qui reviennent parce que le niveau de vie et le niveau de salaire notamment restent plus élevés. C'est le grand paradoxe de Mayotte, c'est le département le plus pauvre de France, mais l'île est vue comme un Eldorado pour les autres pays de la région, et notamment les Comores.
Vous avez dit département le plus pauvre de France. Concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain ?
Alors ça veut dire d'abord des bidonvilles, hein, des étendues de maisons en tôle, en lisière de forêt, 4 ménages sur 10 qui vivent dans ces habitats qu'on appelle ici les bangas. Ça veut dire aussi un tiers des habitants qui n'a pas accès à l'eau courante. Il y a très régulièrement des coupures d'eau, de l'eau contaminée à la manganèse également, encore en novembre dernier. Hein, l'usine de dessalement de l'eau de mer fonctionne très mal. Et s'ajoute à cela la question de la délinquance, taux de cambriolage 3 fois plus élevé que dans l'Hexagone, des faits divers très durs aussi. En janvier, un adolescent 14 ans tué à la machette près de Pamandzi. Donc immigration, insécurité, c'est ce qui fait que cette île au milieu de l'océan Indien est une sorte de concentré de tous les thèmes de prédilection de Marine Le Pen.
Donc elle y est populaire ?
Eh bien, comme à chaque fois qu'elle vient à Mayotte, hein, elle est reçue par des comités d'accueil, hein, beaucoup de femmes en costume maorais multicolores, de la musique, des marines présidentes. Hein, elle disparaît sous des couronnes de fleurs, des colliers de jasmin, donc elle a un public en tout cas. Et dans les urnes, en effet, elle a explosé les compteurs aux européennes, 46% des voix. Attention, c'est à nuancer, déjà par l'abstention, plus de 70%. Et puis parce que Marine Le Pen, elle s'effondre, hein, lors des scrutins locaux. Le RN est un parti fantôme à Mayotte, comme partout à l'outre-mer. Il n'y a pas de militants, pas de troupes, et pas d'élus. Mais le bénéfice pour Marine Le Pen, il n'est pas tellement en termes de voix. Il y a environ 80 000 inscrits sur les listes électorales, c'est très peu. L'intérêt pour elle, c'est d'en faire un symbole, une démonstration, une preuve vivante de ses idées. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Mayotte, c'est un laboratoire de l'horreur de l'immigration incontrôlée. Et c'est pour cela qu'elle se pose en femme providentielle pour Mayotte et par là pour la France.
Les dessous du voyage de Marine Le Pen à Mayotte avec vous, Marie Mollet, sur place pour RTL. Merci Marie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h35 minutes.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, un peu de sourire, un peu de respiration. Laissez-vous tenter dernière. Les jolis conseils de la bande de LVT. Julia Molcou avec nous ce soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien. Bonsoir Peggy. Bonsoir à tous.
On va au spectacle avec nos enfants, mais aussi pour notre plus grand plaisir, parce que c'est un spectacle qui est tiré d'un dessin animé, en tout cas pour nous, autour de cette table de notre enfance.
Enfant du soleil, tu
Parce que j'ai compris ce matin en suggérant le sujet que j'allais être à côté d'un fan Cités d'or. Et que donc, comme beaucoup, avouons-le, eh bien vous allez y aller plus pour vous que pour vos enfants.
Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est possible, racontez-nous, c'est aussi bien que dans notre souvenir ou pas?
Oui, c'est aussi bien que dans votre souvenir. Les héros de la série animée Esteban, Zia et Tao n'attendent plus que vous, plus que nous, pour partir à la recherche des mystérieuses cités d'or. En gros, c'est la saison 1 qui est condensée en 1h30.
Ah oui.
Du départ pour la conquête du Nouveau Monde avec le petit Esteban qui embarque sur le bateau. Parce que rappelez-vous, c'est lui l'enfant du soleil. Hein. Et puis le bateau va s'échouer et c'est là où il va découvrir que Zia était cachée dans le bateau et ensemble ils vont rencontrer Tao. Franchement, les feux de l'amour à côté, c'était facile à pitcher. Et les voilà tous les trois partis à la recherche des cités d'or. C'est vraiment super, ça danse. Il y a même une scène de cabaret en ouverture. C'est drôle, ça joue bien, ça chante bien. Personne ne s'ennuie. Nous, les grands, enfin les grands enfants. On a en plus une autre lecture, c'est très bien fait. Bravo, metteur en scène Nicolas Nebo. Ça se joue aux variétés à Paris à 14h pendant toutes les vacances. Ça continuera ensuite jusqu'en avril. Et puis les mystérieuses cités d'or partiront en tournée. Et je vous signale un truc, c'est que ce sont des vrais enfants sur scène.
Oh, super.
Et pas des adultes qui jouent les enfants.
Très bien.
C'est vraiment épatant.
Ce ne sont pas des grands enfants, ce sont des petits enfants.
Oui, les grands enfants, c'est nous.
Donc c'est d'abord à Paris, aux variétés, donc, et ensuite à partir
septembre prochain, ça part en tournée.
Septembre dans toute la France.
Longtemps.
Il y en aura pour tout le monde des cités d'or. Merci beaucoup du conseil, chère Julia.
À
et à demain. Une petite pause, ensuite RTL Soir va se poursuivre. On va défaire le monde. Cyprien Sini s'installe en faisant du bruit. Céline Landreau, Laurent Tessier arrive aussi.
Sur la chaise.
Et eux s'installent sans faire de bruit.
Avec beaucoup
c'est
de délicatesse.
Pas moi,
la délicatesse, ce n'est pas forcément ce qui caractérise Cyprien. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
On va s'intéresser au business de Noël juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.